avec les membres du FMI et de l'Union européenne. Accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Ils ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé, c'est marqué ben, Gosport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
On pourrait rajouter que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques.
Bonsoir, bonsoir. Et voilà, il est 19h01. Les Canu Info du vendredi n'ont jamais été aussi à l'heure. Et donc, vous êtes au Canu Info du vendredi sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, 102.2. Et aujourd'hui, de quoi va-t-on vous parler?
Alors, on va commencer par un petit bilan des manifestations qui ont eu lieu à Lyon et ailleurs la semaine qui vient de passer.
Ces manifestations ont été l'occasion d'interdiction de manifester à Lyon. C'est une première et on dira quelques mots.
Et puis ce sera aussi l'occasion, après plus de 5 mois, de faire un peu un bilan de ce mouvement.
Et ensuite, que faire pendant les mois à venir? On vous donnera des petits conseils pour l'été, pour pas s'ennuyer.
On passera ensuite à la rubrique nationale, qu'on commencera par avec des informations de professeurs à qui on a conseillé de relever ce qui relevait d'écrits djihadistes dans des copies de bac.
Et puis on ira du côté de Bure où l'occupation s'est fait expulser hier.
Et ensuite on parlera des suicides à France Télécom, souffrance au travail.
On passera ensuite à la rubrique internationale et on fera un petit point sur Frontex qui est déjà une machine horrible mais qui se transforme en monstre encore plus horrible.
Et puis du coup on aura un cas d'école à la suite puisqu'on vous parlera de Vintimille et de la situation des migrants là-bas.
Et pour finir avec l'agenda.
Prenons une ville, Lyon.
Lutte contre l'extrême droite, lutte contre les restructurations, manifestations de soutien à la ZAD et bien d'autres. Maintenant, dans le Canu Info, c'est la rubrique locale.
À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus...
avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable...
Vous voyez, la précarité, elle n'est pas minimale à Lyon. Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons...
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici...
Et vous êtes en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes. On chanterait.
Et donc une semaine encore pleine d'événements parce que la contestation ne s'arrête pas, au contraire. Donc, lors du deuxième passage de la loi travail à l'Assemblée nationale, le 5 juillet, il y avait des manifestations qui étaient prévues un peu partout en France. On va vous en parler de façon très, très limitée. Et on va voir aussi qu'est-ce qui s'est passé les jours d'après. Donc, on verra que le dispositif policier, il n'est pas tout prêt à aller en vacances, mais ainsi les manifestants. Donc, à Lyon, le 5 juillet, il y avait une manif prévue à 17h qui partait de place Guichard jusqu'à la place Lyoté à Foch. On peut retenir des nombreuses et nombreuses fouilles des sacs et des personnes à partir de 17h et même avant. Après la manifestation, il s'est dirigé vers Foch avec grosse provocation policière sous la route, des flics qui s'installent dans les cortèges. Environ 4000 personnes auraient défilé à Lyon. Après, les chiffres, on ne sait jamais vraiment ce que ça veut dire. Mais bon, du coup, pendant le cortège, 2 personnes auraient été arrêtées parce qu'elles ne s'étaient pas soumises à une interdiction de manifester qui leur avait été signifiée. Ensuite, à 22h, il y a eu un départ en manif sauvage dans les pentes de Croix-Rousse. Entre 60 et 70 personnes sont parties en criant des slogans et en faisant des petits dégâts à la caméra de la rue Burdeau. Et en arrivant en place Colbert, les manifestants se sont dispersés, de ce qu'on sait, sans arrestation. Donc ça, c'était les 5 juillet à Lyon. Le 6 juillet, il y avait un autre super événement. C'était Manuel Valls qui était attendu à Lyon. En fait, quelques heures après l'adoption en seconde lecture de la loi de travail, Valls se rendait au siège de la métropole de Lyon, dans le quartier de Pardieu. Il était invité en fait à signer le pacte État-Métropole élaboré par l'association France Urbaine et dont le président est Gérard Collomb. Donc, un comité d'accueil était prévu à 18h sous la forme d'un concert de casseroles. Mais en fait, il n'y a pas vraiment eu de casseroles. Mais en revanche, le dispositif était conséquent pour contenir les manifestants éventuels. 47 camions de CRS, des policiers en civil, des motards, mais aussi des agents de la police municipale. La rue du Lac était fermée, comme tous les accès menant au siège de la communauté urbaine bunkerisée. Donc un dispositif de sécurité qui était visiblement disproportionné, sachant que en général les casseroles ne rassemblent jamais énormément de manifestants. Quand même 47 camions de CRS, ça nous fait penser que Valls, il n'était pas trop à l'aise. Donc de toute manière, le bouclage du quartier a dû dissuader les plus motivés, donc il y avait effectivement zéro manifestant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, les manifestants, ils en ont profité pour faire autre chose. Et donc il y a eu plusieurs banderoles, 3 banderoles qui ont été exposées sur la rocade avec des slogans très sympathiques comme 49-3 Valls dégage, 49-3 Manu casse-toi et 49-3 Valls faire foot. Voilà, du coup, des manifestants, ils ont pu quand même montrer à Valls qu'il était vraiment le bienvenu à Lyon. Ensuite, on va faire un petit détour à Paris parce que quand même la répression à Paris a été très très violente. Bon, déjà à partir du 4 juillet, plusieurs personnes avaient été interdites de paraître ou de être présents le jour de la manif dans les lieux prévus de la manif. Le 5 juillet, qui partait de Place de la Nation. Donc, aussi à Paris, énormément de fouilles, mais surtout énormément de NAS. Donc, il y avait plusieurs milliers de manifestants. À partir de 18h déjà, des NAS qui entouraient 300 à 400 personnes ont commencé à prendre place. Et ça a duré plusieurs heures jusqu'à 21h le soir au moins. Donc voilà, 3 heures de NAS, ça reprend les bonnes anciennes habitudes. Il y avait 150 camions de CRS garés rue de Rivoli. Voilà, le dispositif policier était complètement dingue. Et il y a eu des arrestations très très violentes. Ensuite, donc le jour d'après, le 6 juillet, il y a eu un rassemblement en soutien avec les personnes arrêtées hier devant l'Assemblée nationale, hier le 5 juillet évidemment. Le 16 juillet, il y a eu une opération carton rouge au 49-3 à la mi-temps du match France-Allemagne dans la fin zone de Saint-Denis. Donc il y a eu un petit tractage du carton rouge à la loi de travail et des chants divers dont Valls démission. Et ensuite, on va passer rapidement du côté de Marseille, où le 4 juillet, il y avait eu un blocage du site Ascometal, qui a fini par être levé dans la soirée du 5, et qui était dû à un licenciement abusif d'un salarié. Et toujours le 4 juillet, le camarade socialiste Cazeneuve rendait visite à la Villa Méditerranée. Et un rassemblement a eu lieu pour lui exprimer tout le mal qu'il était pensé de lui. Ce qui a donné lieu à une nouvelle surenchère de flics partout, de bacs à tous les coins des rues, des contrôles, des fouilles, des menaces diverses et variées, jusqu'à l'arrestation très violente d'une camarade qui a passé la nuit en garde à vue. Et ensuite, le lendemain, le 5 juillet, du coup, rassemblement devant le commissariat de Noailles, qui était parallèle à la manifestation intersyndicale officielle. Du coup, peu de soutien de la part des syndicats devant le commissariat. Mais bon, devant le commissariat, du coup, plusieurs personnes qui étaient tranquillement là-bas en soutien à la camarade. Et tout ça, la police a commencé à vouloir contrôler les papiers d'identité de plusieurs personnes, à vouloir fouiller des sacs, puis encercler complètement le rassemblement et à les nasser, tandis que la manif n'était pas loin. Mais globalement, la plupart des personnes s'y rendant n'ont aucun cas voulu se joindre à cette initiative de solidarité, alors que voilà, c'était quand même très très tendu. Et incroyable, la camarade a fini par être libérée de sa cellule pour rejoindre la NAS, sympa comme libération, pour finalement pouvoir repartir avec tout le monde. Donc la manifestation, elle est repartie jusqu'à la préfecture où elle s'est arrêtée. Voilà, c'est un bilan très 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 partiel de ce qui s'est passé dans la semaine, mais ça nous donne envie de continuer et ça nous montre qu'en fait, il y a encore plein de choses qui se passent.
Et alors, pour approfondir un peu ce bilan, peut-être que vous avez noté qu'on vous a dit qu'il y a eu des interdictions de manifester à Lyon ce mardi 5 juillet. Et alors qu'il y avait eu de nombreuses interdictions de manifester dans toute la France, et notamment à Paris et à Nantes, c'est la première fois qu'il y en a eu ce 5 juillet à Lyon. Alors on peut un peu se demander pourquoi le gouvernement, au bout de 5 mois de mouvement social, pour la dernière manifestation d'ampleur avant l'été, commence à distribuer des interdictions de manifester. On peut peut-être trouver une réponse quand on se rend compte que les personnes concernées par cette interdiction sont celles interpellées le 28 juin, donc ça fait une vingtaine de personnes au total. Donc pour rappel un peu, ces personnes avaient toutes été arrêtées sans autre motif que attroupement dans le but de commettre un délit, mais aucun délit n'ayant eu lieu, elles avaient toutes été relâchées sans suite judiciaire. Seulement voilà, avec une interdiction de manifester, si vous allez en manifestation, il y a délit, puisque du coup vous ne vous conformez pas à cet arrêt, ce qui ferait peut-être une raison, ou en tout cas essayer de trouver une justification pour les arrestations très abusives qui ont cours à Lyon et dans toute la France en ce moment. On a pu récolter un petit témoignage d'une interdiction de manifester à Lyon, et donc on vous raconte un peu comment ça se passe. La personne, elle nous dit, ce matin, du coup le mardi 5 juillet, 9h30, tout juste revenu de la crèche, on sonne à ma porte. Je vais ouvrir. Police, pas de chance. Un fonctionnaire de police vérifie que je suis bien moi, ce qui est le cas. Et m'informe que je suis sous le coup d'un arrêté préfectoral m'interdisant de manifestation aujourd'hui. Elle me détaille les zones géographiques où je peux me rendre, me donne une version et me demande d'en signer une autre, qu'elle garde. Elle me détaille la peine encourue si je ne respecte pas cette interdiction. Je souligne que pour une interpellation sans suite à la manif du 28, c'est un peu fort. Elle me répond qu'elle ne sait pas ce qui motive les interdictions. Pendant que je signe, elle voit une sucette de gosse dans l'entrée et me dit « Je vois une sucette, ce serait dommage qu'elle n'ait pas son papa. » Venant d'elle, ça semblait sincère. Venant de l'uniforme, ça avait plutôt le goût de la menace. Au revoir et ils partent. Je tourne un peu en rond, passe quelques coups de fil et je recroise le papier. Peut-être le lire ce truc quand même. Alors qu'est-ce qu'on apprend dans ce papier ? On y apprend que l'ordre public est troublé par des individus violents et extrêmement mobiles. Dans notre cas, nous avons surtout été capables d'entraîner la police dans un marathon d'un malheureux kilomètre. On s'est occupé de la mobilité, ils se sont occupés de la violence. Que ces groupes voudraient en découdre avec la police, alors que, n'ayant jamais cousu quoi que ce soit avec eux, je ne vois pas ce que je pourrais découdre. Que l'état d'urgence sert à légitimer tout et n'importe quoi sous le simple argument de sa reconduction, le serpent qui se mord la queue. Que je me suis défavorablement illustrée pour un militantisme pro-palestinien. Leur avis m'importe peu, ceux des Palestiniens et des camarades solidaires, si. Que les accusations sur ma participation à des actions violentes n'est basé sur rien d'autre que des accusations sans fondement des interpellations du 28, dont d'ailleurs aucune n'a donné lieu à des suites judiciaires. Donc c'est pour vous montrer aussi comment ça marche un peu l'appareil répressif, que ça marche évidemment lors des manifestations, que ça marche beaucoup après, mais que ça marche aussi en amont, et que c'est un peu là tout système qui met en place de comment aussi on fiche des gens, on les catalogue, et aussi on utilise des multiples moyens de pression pour leur faire peur.
Et c'est le moment des chiffres, parce que les chiffres, c'est un peu chiant des fois, mais cette fois, on a la chance. C'est le ministre de la Justice même qui nous fait un bilan de la répression judiciaire des derniers mois de manifestations. Donc, c'était au Sénat, interrogé par une sénatrice sur le profil des casseurs. Jean-Jacques Urvoas, donc ministre de la Justice, en a profité pour présenter au Sénat le bilan chiffré de la réponse judiciaire aux nombreux incidents, c'est ces mots, qui ont marqué les manifestations organisées entre le 9 mars et le 5 juillet dernier dans toute la France contre la loi El Khomri. Donc, il y a eu, attention, 896 gardes à vue de personnes interpellées pour des actions violentes commises en marge de manifestations, a indiqué le ministre. Parmi ces gardes à vue, 520 concernaient des violences contre les forces de l'ordre, bien évidemment, 188 des attroupements armés et 89 des dégradations. Je vous cite évidemment les termes officiels utilisés par la police et par les tribunaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour le 72% des prévenus dans la région parisienne, il s'agissait d'une première condamnation. Donc des personnes qui étaient complètement inconnues des différents services de la chancellerie. Et concernant les peines prononcées, attention, 32 personnes ont fait l'objet d'une peine d'emprisonnement ferme, totale ou partielle, 59 d'une peine avec sursis, dont 36 sursis simples et 23 avec mise à l'épreuve. 8 autres ont fait l'objet des peines d'amende, 10 d'une peine de substitution et 49, tous mineurs, des sanctions éducatives. Donc on voit bien que la répression ne se fait pas que par la police, mais c'est quand même une forte participation du système judiciaire qu'on a vu devenir de plus en plus dur et adopter de plus en plus les représentations des médias sur les soi-disant casseurs. Et aussi que, si vous voulez, de ces 896 gardes à vue, au total, il y a eu peut-être une centaine de condamnations pénales. Et ça nous montre aussi de comment les gardes à vue sont utilisés pour faire peur, comme déterrant, pour dire, venez pas, on va vous mettre en garde à vue, même si vous avez vraiment, vraiment rien fait. Voilà.
Mais on se rend compte que tout ça, ça ne nous a pas vraiment fait peur et que le mouvement ne va peut-être pas s'arrêter avec la fin du mois de juin.
Tout à fait.
Alors, c'est l'été, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire cet été ?
Ah, qu'est-ce qu'on va bientôt pouvoir faire cet été ? Oui, parce qu'avec l'arrivée de l'été, la répression systématique des manifs et les passages en force à coups de 49-3, le gouvernement pense se mettre à l'abri de la contestation. Il est déjà certain qu'elle recommencera en septembre. D'ici là, on a pour vous 6 propositions, non exhaustives évidemment, pour que la pause estivale n'ait pas lieu.
Et oui, et notamment, on vous propose de sortir bombes, Posca et autres crayons de couleur. On a vu un peu sur le site La Rue ou Rien, qui a montré à quel point ce mouvement était inventif en répertoriant les tags inscrits sur les murs depuis le début du mouvement, un peu partout en France. Et il se trouve que sur Lyon, mais ça doit être pareil ailleurs, un appel anonyme circule par mail. L'été arrive et les manifs offensives hebdomadaires vont faire une pause jusqu'à la rentrée. Pas assez de potes pour aller animer le cortège de tête ? À 3 ou 4, on peut égayer la ville. Nous, on comprend que c'est un peu un appel à une grande compétition nationale, voire internationale, de tags. Alors du coup, à votre imagination et à vos crayons.
Alors, si vous utilisez vos crayons dans un endroit et vous ne savez pas vraiment où, chez vous, etc., vous pouvez aller faire au Tour de France. Et oui, jusqu'au 24 juillet, cette course cycliste mythique, suivie partout dans le monde, va parcourir des milliers de kilomètres dans notre pays. L'occasion de montrer aux télés du monde entier ce qu'on pense de son gouvernement, de sa police et de ses lois. Et les routes sont un très bon emplacement pour des tags géants aux rouleaux de peinture, inévitables pour les hélicoptères et les télévisions. Et en plus, les inscriptions sur les routes, c'est une tradition du tour, donc on ne pourra pas vous embêter si vous en profitez pour écrire ce que vous pensez. Et sur le côté des routes, difficile aussi pour le service d'ordre de vous interdire de placer des banderoles au moment du passage du peloton. On peut aussi noter, c'est aussi une tradition du tour, on peut se payer merveilleux en termes de tradition, que les bottes de paille dans les champs sont également un très bon élément de support visible. On a pu déjà voir apparaître quelques peintures, notamment en Haute-Vienne le 5 juillet, où Vals tu dérailles a été peint en gros sur la route du Tour de France. Alors, si vous ne savez pas où passe le Tour de France parce que vous en foutez un petit peu de cette course à la con, eh bien, c'est très simple, le site rebellion.info a pu reprendre vers une carte interactive et signale aussi qu'il passera autour de Lyon le 16 juillet, alors vous pouvez aussi retrouver un plan détaillé, et le dimanche 17, il traversera l'Ain et le Bugey avant d'arriver en Savoie. Et puis ensuite, évidemment, il fera un petit tour dans les Alpes, donc beaucoup de terrain de jeu pour aller peindre.
Et si vous n'aimez pas les vélos, mais vous aimez plutôt les gens importants qui se déplacent avec des grosses voitures, et vous pouvez perturber les déplacements des ministres aussi. Parce qu'en fait, en plus de visites officielles du gouvernement sont chahutées. Cette semaine, par exemple, le meeting de Stéphane Le Foll à Bordeaux s'est avéré particulièrement foireux. Mais ce sont surtout les déplacements de Valls qui ont pété le plafond du sifflotomètre. Discours inaudible à cause de lui à Montpellier, accueil vénère à Bastia, etc. Début juin, le déplacement à Lyon de Macron s'était fait sous haute surveillance, avait failli tourner à la panique quand son ordre de départ à la gare de la Part-Dieu avait fuité. Pour connaître tous les voyages de Valls, vous trouvez un lien sympathique sous Rébellion. Et pour les déplacements des autres ministres, ils sont souvent publiés sur leur site. Donc n'hésitez pas à les regarder.
Et enfin, peut-être qu'on comprend que vous n'allez pas rester à Lyon, ni à Paris, ni à Nantes, et que donc peut-être vous n'allez pas croiser de ministre, mais plutôt aller dans des festivals pour faire la fête avec vos amis, ce qu'on comprend. Mais dans ces nombreux rassemblements musicaux de théâtre, vous pouvez aussi prendre le micro, rappeler ce qui s'est passé au printemps et surtout annoncer la suite à la rentrée. On peut aussi en profiter, par exemple, pour diffuser des tracts, des brochures, projeter des films sur les violences policières ou encore improviser des débats. Et pourquoi pas en profiter pour partir en manif ?
Pourquoi pas ? Et alors, je suis en train de noter qu'on peut faire des combos, c'est-à-dire que vous pouvez participer au Tag Game sur le Tour de France pendant qu'un ministre s'y déplace et en plus à le festival d'à côté. C'est-à-dire, c'est absolument génial, en fait, cette liste de choses. Et vous pouvez même, y aller faire du bruit. Alors, les manifs casseroles debout ont fait un flop retentissant, malgré le bruit qu'elles font, mi-juin. Ça n'a pas vraiment fonctionné, ni à Lyon, ni ailleurs. Et ce mode d'action a pourtant très très bien fonctionné au Québec pendant la grande contestation de 2012 contre la hausse des frais de scolarité. Il n'y a pas besoin d'être 2000 pour faire du bruit dans la ville, une fois par semaine par exemple lors d'une déambulation en soirée. À Lyon, il avait suivi aux manifestants armés, attention, d'ustensiles de cuisine, d'être une petite centaine et de partir en manif pour être très remarqué.
Mais pendant l'été, c'est aussi très très fun de se rendre dans des meetings politiques. C'est un peu la version politique des festivals. Il y a plein de gens, il se passe plein de choses. Donc, le rendez-vous People des Socialistes à Nantes fin août a été annulé dimanche 3 juillet. Alors que, dommage, il y avait une chouette mobilisation qui s'est préparée. En remplacement, Cambadélis, le premier viseur du PS, a annoncé des réunions délocalisées. Elles auraient lieu en septembre. Ça laisse le temps de s'organiser. Et ce sera une bonne manière de préparer la rentrée. En attendant, il y a plein d'autres réunions politiques organisées cet été, comme à Lille, lundi 4 juillet. Bon, c'est un peu passé ça. Bon. Et aucune raison de ne pas troubler aussi le rassemblement des Républicains, partisans de lois tout aussi réactionnaires, ou des fâcheux du FN.
Mais si vous en avez marre qu'on appelle meeting politique les rassemblements du PS et de l'UMP, vous pouvez aussi bien sûr vous rendre sur des vrais lieux de lutte politique. Et notamment, on vous rappelle que cette liste qu'on vous a donnée est non exhaustive, mais vous pouvez aussi aller par exemple à Notre-Dame-des-Landes, vous rendre au camp de Bure qui a été expulsé, aller vers la caravane Notave. Enfin, en tout cas, les idées et les lieux ne manquent pas pour continuer la mobilisation pendant tout l'été.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries, là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info. Nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et voilà, nous voilà arrivés dans la rubrique nationale de ce Canu Info. Et on va commencer à vous parler du bac et surtout à revenir sur un peu cette obsession qu'a l'éducation nationale de vouloir traquer les propos djihadistes. On se souvient, après les attentats qu'il y avait eu à Charlie Hebdo, mais après aussi les attentats du 13 novembre, à quel point l'éducation nationale avait voulu traquer la réaction des élèves et surtout amener à un processus de dénonciation de la part des enseignants et de la hiérarchie de l'éducation. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver au niveau du bac 2016, puisque selon le syndicat national des enseignants du second degré, SNES-FSU, l'inspection générale d'histoire-géographie a demandé au correcteur de l'épreuve d'histoire de l'édition 2016 du baccalauréat de, je cite, « faire remonter les propos antisémites, racistes et djihadistes trouvés dans les copies des candidats ». Le syndicat majoritaire des professeurs du secondaire s'en est ému sur Twitter le 22 juin, rappelant dans la foulée que les enseignants sont des fonctionnaires responsables et compétents qui n'ont pas besoin d'appel à la délation pour accomplir leur travail. Et tout ça, c'est Le Monde qui sort ces informations mercredi 6 juillet. Il faut savoir que du coup, les sujets qui avaient été proposés au bac d'histoire-géographie avaient déjà été un peu controversés, notamment parce qu'ils étaient trop proches des problématiques actuelles. Effectivement, les candidats ont pu plancher sur des sujets sensibles comme le Proche et le Moyen-Orient depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur l'histoire et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre d'Algérie, ou l'affaire Dreyfus. Nous, on peut être plutôt content, par exemple, que des sujets comme la guerre d'Algérie, qui était encore complètement tabou il y a 10 ans, soient traités. Après, reste à savoir comment. Contacté par le quotidien du soir, l'entourage de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, toujours elle, dément cependant toute consigne écrite et fait valoir que des inspecteurs pédagogiques auraient peut-être péché par excès de zèle, faisant preuve de maladresse dans leurs conseils afin de faciliter la tâche des enseignants. Bon, au moins, elle reste un peu cohérente avec elle. Elle nie pas que son but, c'est aussi pour partie d'utiliser l'éducation nationale comme imposer une bonne morale, la sienne, et du coup, d'imposer les valeurs qu'elle défend de la République, et notamment une laïcité dévoyée, et la traque de propos dits djihadistes. Il faut savoir que du coup, beaucoup de témoignages contredisent ce qu'a dit la ministre de l'Éducation nationale et affirme qu'ils ont eu des consignes de faire remonter ces informations-là en scannant certains bouts de copie et surtout en brisant l'anonymat du candidat, puisque ce qui était demandé, c'était de scanner des bouts de copie mais de donner aussi le numéro d'anonymat du candidat, sachant qu'on se doute bien que les inspecteurs et le ministre de l'Éducation nationale ont les fichiers où correspondent le nom réel des personnes et le numéro d'anonymat. Ce qui pose extrêmement question. Il y a eu des réactions très diverses de ce qu'on a pu lire sur la presse web quant aux réactions des enseignants et des enseignantes à qui on a demandé donc de détecter des jeunes en voie de radicalisation. Notamment beaucoup qui disent que c'est pas leur boulot de faire de la délation et qu'ils répondent à ce qu'ils appellent des dérapages par une note basse pour traitement hors sujet. Surtout, en fait, ils insistent sur le fait que ce ne sont pas à eux d'alimenter les fichiers S et que, loin de vouloir alimenter, instaurer un dialogue, le fait de poser ces mesures n'amène pas du tout à la réflexion ni à amener, comment on peut dire, un débat au sein de l'école. Et j'en sais rien, voilà, de réfléchir de manière subtile sur des sujets, mais que de vouloir sanctionner et pointer comme radical certaines personnes, c'est pas comprendre qui est. Enfin bon, bref, je vais faire une phrase qui sert à rien, donc je vais me taire. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de réactions contre cette mesure qu'on a pu voir dans plusieurs départements, notamment plusieurs académies, notamment à Nantes, à Rennes ou à Créteil. Ça finit en fait un peu toute la politique de la ministre de l'Éducation nationale qui depuis 2 ans s'empresse de mettre en place des multiples mesures pour lutter selon elle contre la radicalisation, selon notre analyse pour imposer une vision de la République assez dévoyée et surtout extrêmement discriminante et raciste. On se rappelle par exemple qu'elle avait essayé de mettre en place des bénévoles, mais elle n'avait jamais réussi à mettre en place cette mesure au final, pour venir expliquer la laïcité dans les écoles et bien sûr pour venir contrôler la manière dont on en parlait. Ah, et c'est encore à moi, puisqu'il se trouve que, comme tout c'est le fait. Début de l'été, nos équipes sont clairsemées. Et alors, sans transition aucune, on va aller du côté... Mais les gens ont tous leurs cheveux avec des reflets dorés. Du coup, sans transition aucune, nous allons aller du côté de Bure, où l'État expulse les occupants et les occupantes de la forêt de Mandres-en-Barrois. Et effectivement, les gendarmes sont intervenus jeudi 7 juillet, ça veut dire hier, pour expulser les opposants et les opposantes au projet de déchets nucléaires qui occupait la forêt de Mandres-en-Barrois. Effectivement, l'ANDRA veut y engager des travaux, on vous en a déjà parlé plusieurs fois. Alors, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Bure, déjà, c'est dans la Meuse. Pour essayer de se figurer, jeudi, hier, 7 juillet, à 6h du matin, un important dispositif policier est intervenu dans la forêt occupée de Mandres-en-Barrois, où, depuis plus de 2 semaines, les opposants et opposantes au projet CIGEO d'enfouissement des déchets nucléaires campaient. Dans le village, les accès au bois ont été bloqués par les gendarmes. Les habitants, soutien de la lutte, ont été menacés de garde à vue ou obligés de rester à leur domicile. On retrouve là encore tous les systèmes de pression et d'intimidation mis en place par la répression policière. Le convoi comprenait un bulldozer à l'avant, mais aussi des centaines de gardes mobiles et dans les airs, un hélicoptère qui tournait en rase-motte autour de la forêt. Tout ça pour souligner un très important dispositif policier. Et surtout une mascarade juridique, puisqu'on savait qu'il y avait des menaces d'expulsion, mais on n'imaginait pas qu'ils allaient arriver aussitôt, raconte une opposante à CIGEO. Les occupants et occupantes, accompagnés par leurs avocats, Maître Ambrosselli, avaient rencontré la directrice du cabinet de la préfecture mardi 5 juillet. Ils souhaitaient montrer que l'illégalité n'était pas de leur côté. De multiples procédures juridiques sont toujours en cours. Un recours contre une délibération municipale sur l'échange du bois avec l'ANDRA, qui s'est faite en catimini à 6h du matin, un bulletin secret, observe l'avocat, et une plainte pour infraction au code forestier depuis le 22 juin 2016, car l'ANDRA avait défriché illégalement 9 hectares de forêt. Les réponses de la préfecture sont comme toujours restées très évasives. Ils ont fait mine de ne pas connaître le dossier. La directrice du cabinet a pris 4 pages de notes et nous a dit « je ferai remonter ces informations ». Pour l'avocat, c'est à se demander à quoi sert mon métier. Alors qu'on s'astreint à être légaliste, l'État passe en force sans respecter la loi. Ça fait un peu penser au 49-3. Nous avions également fait une assignation en référé pour demander au tribunal de grande instance de rétracter l'ordonnance d'expulsion du 23 juin, rendue non contradictoirement. Nous étions en pleine procédure juridique et ils ont décidé de nous expulser. C'est une violence institutionnelle. Et donc on va finir par un appel à converger massivement vers Bure cet été.
Tout à fait, convergent, convergent.
Et enfin, dans cette rubrique nationale, un sujet pas très gai, puisqu'on va vous parler, on vous en a déjà parlé, des suicides à France Télécom, et parce qu'il y a un nouveau rebondissement, puisque 7 dirigeants pourraient être jugés. En effet, le parquet de Paris a demandé le renvoi au correctionnel de l'opérateur téléphonique, ainsi que de 7 dirigeants, dont l'ancien patron Didier Lombard, pour harcèlement moral ou complicité de harcèlement moral. Une nouvelle étape vers un procès. Alors pour se rappeler un peu tout ce qui s'est passé, c'était il y a à peu près 10 ans, le 26 octobre 2006, à la Maison de la Chimie à Paris, 200 cadres dirigeants de France Télécom, invités par l'ACCED, l'association des cadres supérieurs de France Télécom, réputée proche de la direction, planchaient sur la transformation sociale de l'entreprise. À leur côté, des invités de marque, puisqu'il y avait le PDG Didier Lombard, en poste depuis 2005, et son numéro 2, Louis-Pierre Vénès, chargé des opérations en France et redoutable cost killer. Alors cost killer, ça veut dire que notre spécialité dans son métier, c'est de faire de la réduction des coûts. Et c'était aussi du coup le directeur des ressources humaines, Olivier Barbereau, et le directeur financier Gervais Pélissier. Donc, dans le plus grand des secrets et de manière informelle, il théorisait, avec les mots les plus cruels de la langue managériale, que la secrétaire de l'ACCED devra édulcorer dans son compte-rendu, le crash programme à mettre en œuvre pour restructurer le groupe au travers du plan Next et de son volet social ACT. Cette réorganisation en profondeur de l'entreprise sur deux ans, 2006-2008. En gros, le but de ce crash programme, c'est quand même assez ouf, c'est 22 000 départs, pour l'essentiel des fonctionnaires embauchés à l'époque des PTT, impossible donc à licencier, 14 000 mobilités et seulement 6 000 recrutements. C'est donc lors de ce super séminaire que Didier Lombard, obnubilé par le cash à produire pour les actionnaires et les effectifs à réduire, l'obsession depuis 2004 et le passage de l'État sous les 50% dans le capital de France Télécom, lance un martial et glacial « En 2007, je ferai les départs d'une façon ou d'une autre, par la fenêtre ou par la porte ». Il veut aller encore plus loin que son prédécesseur, Thierry Breton, parti au ministère de l'Économie, qui a en partie désendetté le groupe et a déjà supprimé plus de 20 000 emplois. Moins de 3 ans plus tard, et alors que la réalité de la souffrance mortifère des salariés est déjà avérée, Didier Lombard stigmatisera ouvertement ceux des salariés de France Télécom qui ne sont pas à Paris, qui pensent que la pêche aux moules c'est merveilleux, eh bien c'est fini. Façon peu élégante de pointer la persistance d'un certain esprit fonctionnaire au moment où le PDG exige « il faut s'adapter avec une rapidité encore plus grande ». La suite on la connaît, c'est un peu marche ou crève. France Télécom, devenue Orange, connaîtrait une vague de suicides, une tragédie sociale sans précédent, devenue symbole d'une souffrance au travail qui broie, détruit, tue des individus. Par exemple, il y avait André, Christine, Étienne, Camille, Claude, Anne-Sophie, Christelle, Corinne, André, Michel, Lionel, Stéphane, Guy, Daniel, Luc et beaucoup d'autres. 57 salariés, hommes, femmes, jeunes ou moins jeunes, se sont donné la mort ou ont tenté de se la donner entre 2008 et 2010. Et selon les syndicats, plus de 34 salariés en 2007. Au travail ou à la maison, en se jetant sous un pont, un train, en s'immolant par le feu, en s'ouvrant les veines, en se tronçant la gorge, en avalant des boîtes de comprimés, en utilisant une carabine, une corde au cou. Après 7 ans de bataille aux côtés des syndicats pour qu'une enquête débouche sur le procès d'une organisation du travail pathogène platifiée, les familles des victimes et les victimes qui ont survécu à ce management par la terreur d'une extrême violence fondent leur espoir sur une reconnaissance judiciaire. Et en effet, une nouvelle étape a été franchie ce jeudi 7 juillet. Le parquet de Paris a rendu ses réquisitions à la suite de l'enquête ouverte après la première plainte déposée en décembre 2009 par le syndicat Sud PTT, suivi 2 mois plus tard du rapport de l'inspectrice du travail chargée des dossiers de suicide de France Télécom, Sylvie Catala, accablant lourdement l'ancienne direction. Il a été demandé le renvoi devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral de l'entreprise en tant que personne morale, une première pour une entreprise du CAC 40, ainsi que de 3 de ses anciens dirigeants, l'ex-PDG Didier Lombard, qui a quitté la direction opérationnelle du groupe en mars 2010, fragilisé par le scandale et une énorme bourde, de son propre aveu, lorsqu'il avait évoqué une mode du suicide. Son ancien numéro 2, Louis-Pierre Vénès, et l'ex-responsable des ressources humaines, Olivier Barbereau. 4 autres dirigeants de l'entreprise, Nathalie Boulanger de Pommier, Jacques Moulin, Guy-Patrick Chevrouvrier, Brigitte Bravin-Dumont, ils ont tous des noms à rallonge, sont accusés de complicité de harcèlement moral. Il appartient désormais au juge d'instruction de suivre ou non ces réquisitions en ordonnant un procès ou en prononçant un non-lieu. Il devrait le faire d'ici quelques semaines. Les dirigeants encourent jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende selon l'article 222-33-2 du Code pénal. Je voudrais juste finir par préciser que ce sera forcément un procès hors norme et que même si c'est... déjà, bien que ce procès puisse avoir lieu, il y avait aussi eu la demande qu'il soit jugé pour homicide involontaire et que ça n'a pas été retenu et qu'il n'y a vraiment que le harcèlement moral qui a été retenu. Que du coup, que même si c'est chouette que le procès ait lieu, voilà, on est encore dans un truc de limite et où beaucoup des personnes qui portent ce procès se demandent à quel point il y a des pressions ou en tout cas des retenues quant à la finalisation de ce jugement.
Et pour mettre quelque part une expression sensible là-dessus, je vais vous lire une lettre qui a été écrite par Michel, dont un de ses amis, Rémi, s'est immolé par le feu en 2011. C'est une lettre qui a été écrite en 2014, 3 ans après sa mort, et publiée sur le site d'information locale larotative.info à Tours. Rémi, cadre à France Télécom Orange, s'est immolé par le feu en avril 2011, au pied de l'immeuble dans lequel il avait travaillé. Geste d'un homme désespéré, mais aussi acte politique pour dénoncer une ultime fois l'inhumanité et l'irresponsabilité du choix de management de son entreprise. Il a allumé lui-même le brasier qu'il allait le consumer. Les immolations par le feu sont souvent tristement spectaculaires. Rémi s'est suicidé à 7h du matin, seul sur un parking désert, au pied de son entreprise, en bas de cette étrange croix dessinée par l'ascenseur vité et les fenêtres du haut. Quand ses collègues ont repris le travail, les pompiers avaient tout nettoyé. Il ne restait qu'une vilaine tache noire incrustée dans le béton. la dernière signature de la rébellion de Rémi. Je ne sais pas s'ils l'ont vue, s'ils l'ont su tout de suite, si elle a cassé la routine de ses débuts de semaine. J'ai appris la mort de Rémi en lisant le mois dernier Télérama. Le journal écrivait « C'est sur ce parking que s'est immolé par le feu, le 26 avril 2011, Rémi Louvradou, un cadre de France Télécom Orange devant les locaux de son entreprise à Mérignac, en Gironde. Il était 7 heures. » L'immolation de Rémi s'est passée il y a 3 ans déjà. Je ne l'avais pas su. Nos échanges s'étaient raréfiés depuis qu'il avait élu domicile en Gironde. Nos contacts s'étaient garés au fil des déménagements. C'est triste de perdre un ami. C'est dur de savoir qu'il s'est suicidé, en choisissant une mort aussi horrible. C'est une sensation étrange d'apprendre tout ça par la presse, par le web, en décalé. Le public et l'intime qui se mêlent, une amitié qui s'est nichée dans le souvenir, encore vivante, au creux de la mémoire, et, malgré la vie qui passe et l'actualité qu'on prend en pleine figure, qui vous donne des nouvelles sans crier gare. Rémi a peut-être eu froid à cette heure matinale avant de s'asperger d'essence, mais il n'en avait cure. Il comptait sur la promesse du feu, qui allait tout brûler, sa chair, sa vie, ses espoirs et sa détresse. Il a peut-être crié quand les flammes l'ont lentement dévoré, ses vêtements d'abord, ses cheveux, son visage, puis son corps tout entier. Il s'est peut-être tu. Il avait déjà beaucoup parlé, beaucoup écrit, assez crié. Rémi était déterminé. Son désespoir, il l'avait senti l'envahir progressivement, jour après jour, année après année. Il avait tenté de lui résister, en alertant, en prévenant la direction de France Télécom qu'elle ne lui avait jamais répondu. Je me suis demandé comment Rémi avait pu en arriver là, se suicider pour le travail, et choisir une mort aussi effroyable. Il faut sans doute, pour comprendre, imaginer les matins qui succèdent pendant plus de 10 ans, avec l'annonce d'une journée solitaire, vaine, dérisoire. Son léger à la tâche inexerçable qui lui a été attribuée, aux humiliations des petits chefs, au regard de ses collègues qui se détournent. Si toutefois un se lève, il est immédiatement rappelé à l'ordre par les supérieurs ou tout simplement massacré par ses égaux. « Tu vas nous attirer des emmerdes », avait-il écrit dans une lettre à sa direction. Le travail devient pervers, aliénant, dévastateur. Au terme immolation, le dictionnaire donne la définition suivante. Sacrifice rituel, par le feu, l'eau ou la terre, acte à caractère religieux ou politique. Les Juifs sacrifiaient un agneau pascal pour se protéger de l'ange exterminateur. Rémi s'est immolé le lendemain du week-end de Pâques. Coïncidence, choix délibéré ou inconscient. En tout cas, son geste était politique. Ce n'est pas lui qui s'est sacrifié, c'est son entreprise qui l'avait sacrifié depuis longtemps. Il a mis en acte, symboliquement, la violence de la situation qu'il subissait. Chacun se souvient des suicides qui se sont succédés dans le groupe France Télécom Orange. Rémi était l'un d'entre eux. Rémi Louvradou avait commencé à travailler à France Télécom à l'âge de 20 ans sur un poste subalterne. Petit à petit, au bout de 20 ans, il était devenu cadre. Au moment de la privatisation de l'entreprise, en 1997, il refuse de déménager pour rejoindre l'affectation qui lui est attribuée. Sa mise au placard, à la poubelle, pour reprendre ses mots, est inexorable. Son fils Raphaël raconte. En 18 ans, il a dû changer de fonction à peu près une dizaine de fois. Parfois, ses missions ne duraient pas plus de 2 mois. S'il s'agissait d'une mise en déploiement, cela signifiait qu'il n'avait plus de poste. Si c'était une mise à disposition, on lui faisait faire un peu tout et n'importe quoi, notamment de la double écoute. Autrement dit, le flicage du personnel des centres d'appel qui répondent au téléphone. Sympathique mise au pas pour un salarié qui défendait ses collègues dans un cadre syndical. Ironie, ou plutôt perversion du système, le dernier poste de Rémi, qu'il avait accepté et auquel il avait cru, préventeur, le chargeait officiellement d'aider ses collègues en difficulté et exposé au risque de suicide. Pour accomplir ce travail, France Télécom l'avait isolé, démuni et ne lui avait attribué ni ordinateur, ni téléphone. Faute de tiroir ou d'étagère, il entassait ses dossiers par terre. Sa famille a porté plainte avec constitution de partie civile contre France Télécom pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Avec une exceptionnelle rapidité, Stéphane Richard, le PDG, a reconnu une faute inexcusable et de l'entreprise et a qualifié le décès d'accident de service. La famille a malgré tout maintenu sa plainte avec l'objectif de contraindre l'entreprise à s'expliquer sur ses méthodes de management et à y mettre fin. Pour arrêter le carnage, et rendre justice à tous ceux qui sont morts. À ma connaissance, la plainte n'a pas abouti. Pour un peu mieux comprendre Rémi, on peut lire une lettre qu'il avait écrite à sa direction en 2009, c'est-à-dire 2 années avant son suicide. Un extrait de cette lettre en tout cas. « Mon parcours personnel. Activité premièrement purement alimentaire dans un cadre de service positif. Prise de responsabilité recherchée avec volonté d'être dans les décisions. Harcèlement subi. Animation transverse. Mise à la poubelle. » Cette situation est endémique du fait que rien n'y fait pour y faire face. Le suicide reste comme étant la solution. C'est triste à qui profite le crime. Rémi L. La direction s'est demandé s'il était pertinent de répondre à cette lettre. Elle a jugé que non. Salut Rémi, ton absence est intolérable. Ta colère est aujourd'hui la mienne. Michel.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés, les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repère de curés, ni de marchands, de policiers. Au vent qui sème la tempête, se récolte les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récolte les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés, contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde, on évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste,
les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Alors, du côté international, on va parler surtout de migration. Et donc, c'est-à-dire, on va parler de répression et de contrôle. Donc, on commence par une décision du Parlement européen. Donc, c'était mercredi dernier à Strasbourg, le Parlement européen a adopté en plénière un texte qui crée un nouveau corps européen pour protéger les frontières extérieures de l'Union européenne. Donc, qui va remplacer Frontex, l'agence Frontex, et qui en fait en sera un petit frère renforcé, doté de plus de pouvoir, mais toujours sans contrôle indépendant de ses agissements, voire des violations des droits durant ses opérations. Donc, ce texte, juste pour vous donner un peu la proportion de comment le Parlement européen vote, 483 voix ont voté pour, contre c'était 181. La proposition venait de la Commission européenne et la législation devrait entrer en vigueur cet automne. Donc, je vais vous lister un peu les points principaux de ce texte. Et donc, qu'est-ce qui va changer dans la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne ? Parce que, évidemment, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Alors, donc, la première grande innovation, c'est que le Conseil européen, donc en fait, c'est les sommets des chefs d'État des États membres, il pourra décider de l'intervention dans un pays qui ne demande pas d'assistance à la majorité qualifiée. Si le pays visé refuse, les autres pays pourraient réintroduire provisoirement des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen. Donc, en fait, l'idée, c'est que s'il y a une arrivée massive ou qu'on considère que l'un des pays aux frontières de l'Union européenne ne fait pas son travail, du coup, de fermeture et de blocage, bah, les autres pays, elles peuvent décider de, du coup, mobiliser ce corps de garde frontière, donc une réserve de 1500 hommes désignés par les États membres, pour aller envahir cet État et contrôler ses frontières, même si cet État ne veut pas. Donc, voilà, on peut s'interroger aussi sur ce que reste de la souveraineté nationale. Et bon, ensuite, des points aussi assez inquiétants. En fait, ce nouveau corps, il va collecter et traiter les données personnelles des personnes migrantes, faisant de l'agence un hub de données personnelles. En fait, en dépit de l'avertissement lancé par les contrôleurs européens de la protection des données, les députés vont probablement voter un texte qui permettra de traiter ces informations et de les transmettre à Europol sans les garanties nécessaires en matière de protection des données. Et juste pour rappel, Europol, c'est l'European Police Office. C'est un office de police criminelle qui est devenu une agence communautaire en 2010. Donc, c'est un office intergouvernemental, je vais jamais arriver à le dire, qui facilite l'échange des renseignements entre polices nationales en matière de stupéfiants, de terrorisme, de criminalité internationale et de pédophilie au sein de l'Union européenne. Donc, gros échange de données, de fichage, etc., etc., avec aucune garantie, en fait. Bon, ensuite, il y a aussi le problème de l'impunité qui déjà concernait Frontex. En fait, il y a un problème d'irresponsabilité juridique pour tout ce qui se passe à l'intérieur et à cause de Frontex, parce qu'en fait, Frontex, comme le nouveau, la nouvelle agence, ils utilisent des gardes qui viennent des États membres. Et en fait, c'est à chaque violation de droit. Il y a les États membres qui peuvent être accusés individuellement, mais Frontex en tant que telle et l'Union européenne ne peuvent pas être accusés ni condamnés en dépit des cas avérés des violations des droits humains pendant les opérations conduites par l'agence. Donc la situation ne change pas, il y aura une irresponsabilité totale en cas des violations des droits avec ce nouveau corps de garde frontière. Et ensuite, la nouvelle agence doit également jouer un rôle plus important que celui de Frontex dans le renvoi des migrants dans leur pays d'origine quand ils ne peuvent pas prétendre au statut de réfugiés. Donc, ils auront un rôle accru dans l'expulsion des personnes, y compris en organisant elles-mêmes des opérations de retour conjoint et en aidant à l'obtention des documents administratifs nécessaires. Donc, c'est-à-dire que les États membres, ils ne font pas assez bien leur travail d'expulsion. Ils le font pas assez, donc on va les aider, on va expulser tout le monde. Et après, voilà, c'est toujours en termes de problèmes de démocratie que ça pose. Bah déjà, l'Union européenne a un fonctionnement qui est un peu flou aux yeux de la plupart des citoyens de l'Union européenne. Et pour des raisons techniques, alors c'est un article de France 3 qui dit ça, donc je ne sais pas exactement ce que sont les raisons techniques, mais un dernier vote devra avoir lieu au Parlement européen pour finaliser les nouveaux dispositifs, probablement en septembre, mais la Commission a appelé à commencer sans attendre sa mise en œuvre. Parce qu'en fait, on s'en fout un peu de ce que le Parlement européen va voter. Ou mieux, on le sait déjà. Et toujours en parlant de migrants et de ce qui se passe aux frontières, cette fois aux frontières internes de l'Union européenne, on va passer à Vintimille, où vous vous souvenez sûrement, il y a quelques mois, il y avait plusieurs milliers de migrants qui étaient bloqués entre la frontière italienne et française, et un commando de No Borders s'était créé, donc pour mettre en place un soutien légale, juridique, et pour traverser, il y avait une école de français qui s'était mise en place. Voilà, il y avait une grande solidarité qui avait fait, qui avait créé un campement d'une grande dimension quand même, et qui avait été expulsé sans beaucoup de solutions alternatives. Donc, qu'est-ce qui se passe à Vintimille ? On en parle beaucoup moins, mais il y a encore plusieurs centaines de migrants qui sont à Vintimille et qui essayent de passer la frontière pour traverser, pour arriver en France. En fait, la police italienne, en même temps, met en œuvre une répression constante avec des rafles systématiques, avec des arrestations, des fouilles, des décrets d'expulsion et des déportations qui deviennent la praxis quotidienne, qui frappe les personnes sans papier hors des espaces de l'église ou de Caritas. Parce qu'il faut savoir que du coup, les personnes qui ont été expulsées, il y a une partie qui a été hébergée dans le centre de Caritas, qui est une association plutôt catholique. Et il y a une église qui héberge des migrants. Mais en fait, la plupart ont été déportés au sud de l'Italie, où il y a plusieurs centres d'accueil, de tri, de rétention, comment on va les appeler. Et d'autres ont été renvoyés un peu plus loin. Il y en a très peu qui sont arrivés à rester à Vintimille parce que, du coup, il n'y avait pas de centre d'hébergement. Et il y a eu aussi une grosse opération de nettoyage de squats, tout ce qui existait en occupation et du coup en solidarité informelle. Donc, par exemple, le 30 mai, toutes les forces de l'État ont envahi et militarisé la ville. Le bord de mer, les trottoirs et les rues des Vintimille ont été contrôlés et quadrillés. Une véritable chasse à l'homme des personnes sans papier. Et dans la soirée de lundi, la police est entrée par prétexte dans l'église où une centaine de migrants avaient trouvé refuge et arrêté tout et toutes les Européens solidaires. 6 ordres de comparution et 9 interdictions de territoire de Vintimille, dont 5 de la province entière d'Imperia. Donc ça, c'était le 30 mai, le 30 juin, pardon. Ah non, je ne sais plus quand c'était. Mais bon, là, je vais vous parler de ce qui s'est passé cette semaine. Du coup, les 2 et 3 juillet. Entre les 2 et 3 juillet, des nouvelles tentatives collectives de passer la frontière ont eu lieu. Donc, plus de 400 personnes migrantes sont parties en manifestation spontanée le 2 juillet dernier afin de tenter de passer tout ensemble la frontière à Vintimille pour rejoindre le territoire français. Le cortège s'est dirigé sur la route en direction de la France mais a rapidement été bloqué par les cordons de la police italienne. L'association Caritas, donc, qui héberge une partie des migrants, a essayé de faire un petit peu de médiation, mais les migrants et migrantes n'ont pas voulu. De nombreuses actions de solidarité avaient en même temps lieu dans d'autres villes italiennes. Donc, au moins 200 personnes à Vintimille ont tenu la position toute la nuit et ont dormi sur place en refusant la nourriture qui était proposée par l'église, tandis qu'un groupe de gens veillait afin de surveiller les agissements de la police, toujours proche. Les tentatives de passage du coup au-delà de la frontière ont repris le matin du 3 juillet, malgré des charges de police et des coups de matraque distribués gratuitement ici et là et qui ont fait plusieurs blessés légers. Le maire a également descendu pour tenter de négocier avec les migrantes, exigeant de ne recevoir qu'une seule personne. Ben, ceux-ci ont évidemment refusé la proposition et envoyé 6 personnes. Le 4 juillet, donc encore le lendemain, le maire de Vintimille est venu en personne pour poser un ultimatum chargé de menaces. Celui-ci disait en effet que le blocage de la route allait déclencher les forces répressives de l'État, qu'il n'avait aucun moyen d'y échapper et que la seule façon de ne pas subir cette répression était de vider les lieux et de rebrousser chemin pour regagner le camp. Ce n'est que vers 11h du soir, voyant que le nombre des gens se réduisait, que l'on savait que dès 17h30, des bus et des avions avaient été préparés pour déporter tout le monde vers le sud de l'Italie. Les quelques 150 personnes restantes ont décidé de regagner l'église en manifestation, tout en chantant des slogans contre les frontières. Donc aujourd'hui, l'église est pleine, mais la menace des 2 avions déjà prêts faisait craindre une intervention de la police, même si la route avait été libérée. La situation est pourtant stable pour le moment et on compte 700 migrants à Vintimille en ce moment. Et on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on soupçonne un nettoyage général qui pourrait avoir lieu dans pas très longtemps.
Eh ben, merci pour toutes ces informations. Alors, on ne savait pas trop comment vous faire un agenda parce que trop de choses à dire ou pas assez. Du coup, on vous dit que laissez cours à votre imagination. On vous a quand même donné plein de petits jeux à faire pendant l'été. Il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé, comme les péages, par exemple, qui sont des points de rencontre intéressants pendant l'été pour diffuser ses idées, par exemple. Et puis, on se donne rendez-vous. En tout cas, des Canuts Info, on va essayer d'en faire de temps en temps, par-ci, par-là. Ça va être aussi un peu la surprise. Du coup, on ne peut pas trop vous dire. mais en tout cas sûr pour la rentrée. Et les prochaines manifestations intersyndicales est déjà annoncée, puisqu'elle aura lieu le 15 septembre.
Ouais. Et le Canu Info de la semaine prochaine aura sans doute lieu, et le même soir, il y aura quoi ? Il y aura probablement la dernière soirée de l'Oblique, qui sera surtout la boum de l'été, en soutien à Georges Ibrahim Abdallah et au site d'information Rebellion. Dans exactement 20 secondes, c'est Noise Pollution, et donc on va vous quitter ce soir. Et n'oubliez pas, paniquez pas,
niquez tout !
La musique arrive dans une seconde, deux, trois secondes. Est-ce que tu as quelque chose à annoncer dans l'agenda ? Non ? Bon, en tout cas, paniquez pas, niquez tout.
Et à très bientôt.